Thierry Salentin, ethnologue, a vécu de 1986 à 2000 parmi les peuples autochtones de la Guyane française. Depuis, il mène une campagne d'information contre la création d'un parc naturel en forêt équatoriale qui menace la survie de ces peuples en permettant au tourisme de s'implanter dans leur région d'habitation. Pour comprendre les mécanismes de domination à l'œuvre aujourd'hui, il aborde avec nous dans cette première partie l'histoire de l'implantation des peuples et la colonisation en Guyane. Thierry Salentin.
Dans le sud forestier, où les Amérindiens sont pour la plupart analphabètes, ne savent pas lire, pour eux c'est beaucoup plus délicat, donc c'est pour ça que j'ai été agir là-bas chez eux, et puis j'ai essayé de m'opposer aux chercheurs d'or. Quand je suis arrivé en 86, je me suis opposé au rallye Paris-Dakar, le Thierry Sabine Organisation, qui voulait créer un rallye motonautique avec des bateaux hors-bord. Et comme par hasard, ils voulaient que les bateaux hors-bord circulent sur les fleuves habités par les Amérindiens, alors qu'il y a des fleuves inhabités en Guyane, comme la Mana et la Prouague. Mais non, parce qu'il fallait que le Zodiac soit photographié avec en arrière-plan le loup pittoresque avec le petit pagne rouge et les seins nus d'une Amérindienne ou une Amérindienne tenant son bébé dans un petit hamac sur l'épaule. Bon, pour moi, c'est une exploitation grotesque de type zoo humain des populations. Donc je me suis opposé au Paris-Dakar en 86.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler juste au niveau superficie ce que ça représente la Guyane, au niveau densité de population,
bien
etc.
Sûr.
Et où sont justement les autochtones?
Bien sûr. Alors déjà, il ne faut pas faire comme certains fonctionnaires des PTT. La Guyane, ce n'est pas en Afrique, du côté de la Guinée. C'est bien en Amérique du Sud, juste au-dessus de l'équateur, au nord du Brésil. Ça touche l'État fédéral du Brésil qui s'appelle l'Amapá. C'est adossé aussi un petit peu au Pará. Et de l'autre côté, il y a la Guyane hollandaise, qui s'appelle maintenant le Suriname. Le Suriname est indépendant depuis 1975, mais il faut préciser que le Suriname est depuis à peu près 1982 un narco-État dirigé par un narco-dictateur. Enfin, ça, c'est autre chose, mais la situation est très bizarre au Suriname. Donc la Guyane, c'est 300 km sur 300, ça fait 90 000 km². C'est la taille de 15 départements habituels en France, mais il n'y a qu'une seule route qui longe la côte au nord. Il n'y a que trois villes, hein, principalement, c'est Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Et 90% de la population vit le long de cette unique route, laquelle route n'est même pas terminée en direction du Brésil. Enfin, on y circule déjà, mais c'est une route en terre actuellement pour rejoindre la frontière du Brésil. Et il y a 9% de la population le long de la frontière avec le Suriname, 1% de la population le long de la frontière avec le Brésil. Ça veut dire que dans tout le centre, tout le milieu, c'est-à-dire 95% de la surface de la Guyane, il y a quasiment zéro habitant. En fait, il n'y a que deux villages qui s'appellent Saül et Saint-Élie, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est très très peu habité en plein milieu. Autrefois, quand les Indiens étaient libres, ils étaient absolument partout, très judicieusement répartis en fonction des ressources amazoniennes. Ils vivaient selon le principe du jardinage itinérant sur brûlis, en village semi-nomade, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient tous les 10-15 ans. Et on voit aux traces de polissoirs, c'est-à-dire les endroits où ils polissaient leurs haches de pierre, qu'ils étaient absolument partout, très équitablement répartis en fonction des disponibilités écologiques du milieu. Alors la population actuellement au pouvoir à Cayenne, c'est les descendants de ceux qui ont été libérés de l'esclavage en 1848. Alors là aussi, je ferai une nuance parce que c'est pas que des esclaves qui ont été libérés en 1848, parce qu'il y avait déjà énormément d'affranchis. Étant ces Noirs affranchis, il y avait une bourgeoisie noire qui s'entichait d'imiter le mode de vie des Blancs. Et dès les années 1830, il y avait déjà des familles bourgeoises noires qui mettaient leur argent, qui consacraient leur argent aux plantations et qui étaient elles-mêmes, en tant que famille bourgeoise noire, propriétaires d'esclaves noirs. Donc c'est toujours trop simpliste de dire que l'histoire de l'esclavage, c'est noir-blanc, blanc-noir. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu énormément d'esclaves blancs aux Caraïbes, notamment 30 000 Irlandais déportés par Cromwell. Ça, c'est très peu connu. Il y avait dans le système français ce qu'on appelle des engagés, c'est-à-dire des esclaves blancs qui avaient un contrat de 3 ans pour rembourser leur voyage. Et comme le patron savait que cet esclave-là n'était esclave que pendant 3 ans, en fait, ces 3 années-là, il fallait le faire rendre au maximum, qu'il travaille le maximum, parce que c'était un contrat à durée déterminée. Donc, ils étaient quelquefois plus maltraités que les esclaves noirs, qui, eux, l'étaient définitivement. Alors, les descendants des libérés de 1848 ont très vite sont tombés dans le syndrome du mimétisme qui est décrit par Frantz Fanon. C'est-à-dire ils tiennent à imiter la culture blanche, mais souvent dans ses aspects les plus bourgeois, les plus aristocratiques, les plus guindés. Et alors, l'un de ces intellectuels... alors, en Guyane, on les appelle créoles. Alors que créole, au sens du dictionnaire, ça veut dire blanc né dans les îles à sucre. Mais comme les blancs de Guyane, en tant que propriétaires d'esclaves, sont quasiment tous partis à la fin du 19e siècle parce qu'ils ont fait faillite, sauf quelques-uns qui sont restés pour la première ruée vers l'or qui a commencé vers 1855. Donc créole, maintenant, en Guyane, ça veut dire noir métis ou africano-créole ou de langue créole, de culture créole. Alors ces créoles, actuellement, ils ont quasiment 100% du pouvoir au conseil général, au conseil régional, et ils ont horreur des peuples de la forêt, qu'ils soient noirs cimarron, c'est-à-dire les noirs qui ont échappé à l'esclavage d'eux-mêmes en s'enfuyant dans la forêt. Cette fuite dans la forêt s'appelle le marronnage, et en français, on les appelle les noirs marrons, en espagnol cimarron, c'est-à-dire fuir vers les cimes des montagnes. Et alors, les noirs marrons, comme les Amérindiens, sont détestés par... Les Noirs créoles de Cayenne. Et là, je vais citer les paroles de Serge Mamelam Fouque, qui est un historien créole, qui a écrit chez Ibis Rouge « Histoire générale de la Guyane française ». Alors déjà, le titre, c'est une escroquerie. C'est absolument pas une histoire générale, parce que c'est l'histoire uniquement des créoles de Cayenne. Et il a cette phrase atroce dans son livre. Il dit que le rôle des créoles en Guyane, c'est de dilater l'espace colonial au détriment de l'espace tribal. Et il dit ça aujourd'hui. On a l'impression d'avoir affaire à un texte de 1930.
Valentin, peux-tu expliquer la situation actuelle des peuples autochtones ?
Je vais d'abord faire un rapide historique. Hein. Mmh. Effectivement, la Guyane, c'est une colonie française. C'est une des premières colonies parce que ça remonte à peu près à 1604. Et la France est définitivement présente à Cayenne depuis 1676. Parce que pendant 40-50 ans, il y a eu une dispute entre les colons français, les colons hollandais, les colons anglais et les colons portugais aussi. Parce que, par exemple, les Français étaient présents au Brésil quasiment en même temps que les Portugais. Il y a Villegagnon qui a découvert la baie de Rio, c'était vers 1550. Bon, et la situation s'est un peu stabilisée en 1676, donc les Français sont en Guyane française. Mais là, il y a les Amérindiens, il y en avait 60 000, et en 1948, il en restait moins de 700. C'est-à-dire un terrible génocide. Il y avait 30 peuples amérindiens différents, aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Il n'y a pas longtemps, il y en avait 7, mais il y a encore tout récemment un peuple amérindien de Guyane, les Akulios, qui ont été exterminés suite à l'intervention de missionnaires protestants. Donc c'est toujours une situation coloniale. Alors le paradoxe, c'est que dans les années au milieu du XXe siècle, quand beaucoup de peuples du tiers-monde revendiquaient leur indépendance, je pense à Gandhi en Inde par exemple, ben les militants habitant la Guyane ont demandé exactement l'inverse. C'est-à-dire ils ont supplié le gouvernement français, à la place d'avoir l'indépendance, d'être assimilé. Et donc le gouvernement a voté les lois d'assimilation en 1946. Et les lois d'assimilation, ça veut dire que les colonies comme la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ont été transformées en départements d'outre-mer. C'est-à-dire intégrées, je dirais même cannibalisées, assimiler, c'est au sens digestif, on a intégré ces départements comme s'ils étaient exactement à l'intérieur de la France. Donc ça donne une situation aberrante. Et les Amérindiens sont furieux parce que eux, on déclare leur forêt officiellement terre vacante et sans maître. C'est comme s'il y avait personne. Et en France, on vit toujours selon le principe colonial de terra nullius, la terre nulle, la terre vide, la terre libre à la colonisation. Donc ça aussi, ça vexe beaucoup les Amérindiens. Alors il faut savoir qu'en Australie, par exemple, depuis 1992, la notion de terra nullius a été abandonnée suite au combat des militants aborigènes, notamment le combat de Eddie Mabo. Mais en Guyane française, on est toujours sous le régime colonial de Terra Nullius. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais étant donné que la Guyane est maintenant, depuis 1946, un département, la situation ne peut pas évoluer puisque c'est le territoire de la République sacrée, une et indivisible, aux frontières intangibles, etc. » Alors à ça, je réponds « Oui, la Guyane est un département, mais l'Algérie aussi était un département. Et puis en Algérie, ça a évolué. On sait bien que la France était une et indivisible de Dunkerque jusqu'à Brazzaville, ça a évolué. Ensuite, c'était les frontières sacrées de Dunkerque jusqu'à Tamandracet, ça a évolué aussi. Maintenant, on en est à la République une et indivisible de Dunkerque jusqu'à Bonifacio. Peut-être que là aussi, ça va évoluer. On ne sait pas si... Peut-être qu'un jour, la Corse obtiendra une relative indépendance. On ne sait jamais. Donc, tout peut évoluer. Et je pense que la Guyane pourrait accéder à l'indépendance à condition que ça soit une réelle indépendance, une indépendance au profit des peuples indigènes, c'est-à-dire des Amérindiens, et non une indépendance au profit des colons. Alors là, je renvoie au gros pavé qui vient de sortir sur l'histoire de la colonisation de Marc Ferraud, l'historien Marc Ferraud. Et Marc Ferraud fait remarquer, à juste titre, qu'il faut faire très attention avec le terme indépendance, parce qu'il existe des fausses indépendances que lui appelle les indépendances colons. Par exemple, les États-Unis, c'est le résultat d'une indépendance colon. C'est uniquement une brouille interne entre Européens. Les Européens qui étaient là-bas et les Européens restés en Europe, ils se sont fâchés. Il y a eu une guerre dite d'indépendance, mais c'est juste une guerre interne aux Européens qui n'avait rien à voir avec les peuples indigènes. Et au contraire, en général, les indépendances colons, c'est quand les colons obtiennent l'autonomie par rapport à la métropole d'origine. En général, c'est pour être encore plus agressif, encore plus méchant par rapport aux peuples autochtones. Ça s'est passé aux États-Unis. En fait, le roi George III d'Angleterre voulait protéger les Indiens au-delà de la ligne des Appalaches. Il disait qu'au-delà, c'était territoire souverain amérindien. Les colons n'en voulaient pas. Dès qu'ils ont obtenu l'indépendance, ils se sont dépêchés d'aller casser la gueule aux Amérindiens. Et en Guyane française, il se passerait la même chose. Si jamais on donnait l'indépendance, mais au profit des colons de Cayenne, les colons de Cayenne se dépêcheraient de profiter de leur indépendance pour régler leur compte définitivement aux Amérindiens. Donc voilà, il faut faire une... C'est important de faire une nuance entre les vraies indépendances et les fausses indépendances. Et moi, je souhaite l'indépendance au profit des Amérindiens. Et je viens de publier un article à ce sujet qui est dans la revue L'Écologiste de juin 2003. Bon, j'ai essayé d'évoquer cette hypothèse. Alors, pour les Amérindiens, il y a trois familles de langues. Il y a les langues caribes, parlées par les Kalinya et les Wayana. Il y a les langues Tupi, parlées par les Teko et les Wayampi. Et il y a les langues Arawak, qui sont parlées par les Paikwene et les Lokono. Et il y a aussi, sur la côte, la langue française de type créole. C'est-à-dire c'est une forme française un peu spécial. Enfin, on le connaît un peu en France parce qu'on entend parler les Martiniquais, les Guadeloupéens. Donc il y a un créole guyanais. Et puis il y a maintenant, évidemment, à cause de la ruée vers l'or et du fait que les ouvriers sont tous d'origine brésilienne, beaucoup de Brésiliens. Il y a beaucoup de Surinamiens aussi. Et il y a aussi énormément de Guyaniens. Alors on appelle Guyaniens les ressortissants du Guyana et eux sont anglophones. Et il y a quelques hispanophones qui viennent de Colombie, du Pérou, d'Équateur. Donc, enfin, tous les peuples de l'ensemble de l'Amérique du Sud se retrouvent d'une façon ou d'une autre en Guyane. Une fois, il y a eu un recensement de l'éducation nationale et ils avaient noté 60 nationalités différentes en Guyane française. Thank you.